Bienvenue à tous. Oui, j'ai la cravate ce matin. Voilà. Comme ça, c'est fait, ça s'est classé. En fait, je me suis dit, quand j'ai su que vous veniez, j'ai dit, oh, quand même, ça vaut la peine que je mette la cravate pour vous. Et là, les plus spirituels disent, mais c'est pour Jésus surtout. Pardon? Couleur du ciel, oui, il y a un petit concept, c'est vrai. Mais en fait, ce matin, j'étais avec Philippe, il faut que je précise, Philippe Bourjas, parce que c'est quasiment un critère pour pouvoir faire partie de l'église du CEP, il faut s'appeler Philippe, tellement qu'il y a de Philippe partout. Mais on était ce matin à l'aube pascale, à la réunion intercommunautaire des églises différentes de Prèves-Saint, donc toutes les églises à la paroisse catholique de Prèves-Saint. Alors, je dis, bon, je pense que c'est un moment officiel, il faut quand même être présentable. Et donc, je me suis dit, tant qu'à y être, pourquoi pas ne pas rester comme ça? Et en même temps, c'est un jour spécial. Alors, c'est vraiment un jour spécial. Et vous savez ce que j'aimerais ce matin? Honnêtement, j'aimerais que Jésus puisse venir parler lui-même de sa propre résurrection. Ça serait tellement plus facile pour moi de m'asseoir à vos côtés et juste écouter Jésus lui-même nous parler de son œuvre, nous parler de ce que lui, il a vécu, de comment est-ce qu'il a vaincu la mort. Mais physiquement, il n'est pas là. Alors, priez fort pour que le Seigneur puisse, à travers toute mon humanité, dans la splendeur de ses imperfections, nous communiquer qu'est-ce qu'il a pour nous ce matin. C'est un moment qui est extraordinaire, une journée évidemment. Pour ceux qui connaissent Jésus, c'est tous les jours Pâques, parce que Jésus est ressuscité, il est ressuscité, donc c'est valable tous les jours. Mais aujourd'hui, évidemment, on veut mettre une emphase plus particulière sur cet événement-là qui a pris place. Et les théologiens sont tous d'accord, en tout cas à quelque chose près, je dirais, mais en règle générale, les théologiens sont d'accord pour dire que la résurrection est la voûte du christianisme. Enlève la résurrection et tout ce qui repose comme théologie sur le christianisme, par rapport au christianisme, s'effondre. Et l'apôtre Paul dira lui-même, à quoi ça sert de prêcher, de croire si Christ n'est pas ressuscité? Tout repose là-dessus. C'est le moment, c'est l'événement, c'est j'allais dire presque plus fort que Noël, parce que j'y presse, parce que s'il n'est pas né, il n'y a pas de démarrage, il n'y a rien qui se passe par la suite. Mais on a besoin de réaliser la puissance de la résurrection. Je sais que dans l'islam, et je ne le dis pas dans un jugement, j'ai rencontré des personnes, encore il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont dans l'islam, des musulmans, c'est vraiment intéressant de discuter avec eux. Et je sais que dans l'islam, Jésus est considéré comme un prophète. Un prophète parmi tant d'autres. Et jusqu'à un certain point, ce n'est pas faux, Jésus a aussi été un prophète. Dans ce sens, prophète, c'est-à-dire la voix de Dieu qui se manifeste, il a été le message de Dieu, le Verbe incarné. Jésus, c'est le Verbe incarné de Dieu qui a pris place sur la terre. Donc, dans ce sens-là, on peut dire, oui, Jésus a été un prophète, au-delà du fait qu'il a prophétisé aussi à son tour. Mais en fait, Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. Il est le signe lui-même, il est beaucoup plus que ces prophètes qui ont annoncé à l'avance la venue du Messie. Il est l'accomplissement même de toutes les prophéties du passé. Wow. Il est le signe par excellence. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Couronné ». Couronné. Et après le livre d'Ésaïe, Zacharie est l'un des plus cités, sinon le plus cité dans le Nouveau Testament, prophète Zacharie. D'ailleurs, si vous prenez le temps de lire, vous allez voir dans Zacharie plusieurs allusions prophétiques, prédictives, qui annonçaient d'avance, par exemple, le fait que Jésus allait monter sur un ânon, qu'il a été vendu pour 30 pièces d'argent, qu'il allait être livré à la mort, qu'il allait être transpercé, qu'il allait être une source purifiante. Tout ça, vous allez le voir dans Zacharie, à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, tout ça était annoncé à l'avance. Zacharie est un livre vraiment, vraiment riche. Le chapitre 3 de Zacharie, je vous invite à le lire, le livre au complet, mais le chapitre 3, il est saisissant. Il parle de Josué, qui est un grand prêtre à cette époque-là dans ses fonctions, et il y a toute une analogie qui est faite. Il faut comprendre l'Ancien Testament, c'est la Bible qui nous le dit. Il faut saisir que l'Ancien Testament est une préfiguration, une ombre des choses à venir. Et j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants pour lire dans Zacharie chapitre 6, les versets 9 à 13. On va lire quelques versets pour nous mettre un petit peu en situation. Et on nous dit ceci, Zacharie chapitre 6, versets 9 à 13. L'Éternel, donc c'est le prophète Zacharie qui parle, hein. « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Va prendre les dons que Eldaï, Tobia et Yadéa apportent de la part des exilés. Rends-toi aujourd'hui dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où viennent d'arriver ces gens en provenance de Babylone, pour y prendre l'argent et l'or qu'ils apportent. Tu en feras une couronne, tu la poseras sur la tête de Josué, fils de Jehotsadak, le grand prêtre. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous ce matin. Tu lui diras alors, écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est Germe, et sous ses pas, tout germera. Il bâtira le temple de l'Éternel, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu, verset 13 est très important, il sera revêtu de majesté royale, et il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. Vous avez deviné, il s'agit de Jésus. Tu vas prendre l'argent que ces personnes-là vont amener de l'exil, tu vas en faire une couronne, tu vas la poser sur le grand prêtre et tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur, quelqu'un viendra bâtir le temple, son nom sera Germe et sous ses pas, et sous ses pas tout germera. Marche dans la présence de Dieu et tu marches dans la vie. Et sous ses pas, tout germera, tout prendra vie. C'est lui qui va bâtir le temple. Le temple n'est pas une cathédrale, le temple n'est pas ce lieu, cette église de Préfecin en termes de bâtiment. Le temple, c'est nos vies. Le temple, c'est la vie de Jésus lui-même qui a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, il sera rebâti. Les gens sont scandalisés, disent, mais voyons donc, comment est-ce que tu peux faire ça? Ils ne savaient pas, pour la plupart, qu'il parlait de lui-même qui allait prendre une extension à travers l'église. Il parlait de son corps, il parlait de vous et moi, il parlait de nous. Alors, je suis content quand je vois tout ce qui est tous les projets de restauration qu'il y a pour la cathédrale de Notre-Dame à Paris. On estime à plusieurs années de reconstruction, mais Jésus a dit, moi, en 3 jours, je le rebâtirai. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Son temple est encore vivant, sa présence est encore vivante. Jésus est encore vivant malgré les flammes, malgré tout ce qu'il peut y avoir, malgré tout. Jésus est ici, son Église est vivante. Yes, sir! D'ailleurs, c'est très fort. Quelqu'un l'a fait remarquer ce matin au rassemblement qu'on avait d'unité. Le prêtre, justement, le mentionnait à quel point c'était fort. Je ne sais plus si c'est le prêtre ou quelqu'un d'autre. Mais bref, non, je pense que c'est Jean Daniel de l'Église Adventiste qui mentionnait ceci. Il y a vraiment une image qui l'a interpellé. C'est l'image qui a frappé l'imaginaire de tout le monde, en fait. C'est où on voit les flammes, la cathédrale de Paris, et au centre, il y a la croix. Et il expliquait, Jean-Daniel expliquait, il dit, c'est comme si d'une certaine façon, Jésus est en train de dire, façon de parler, c'est comme, OK, on enlève tout le superflu, mais c'est là qu'il faut regarder, c'est la croix seule. Maintenant, je sais qu'il y a plein de scandales autour de l'Église, des Églises en général. Gardons un équilibre dans tout ça. Évitons de tomber dans le jugement. Petite parenthèse. C'est tellement facile de pointer, mais nous avons aussi notre lot de reproches, les évangéliques. Et la plus grave des idoles n'est pas une idole faite en bois ou en pierre, c'est celle que l'on cultive dans le secret de nos cœurs. Alors gardons nos petites gênes avant de pointer du doigt, de juger ou de penser ou de sauter à des conclusions. Restons concentrés sur celui qui est mort et ressuscité, Jésus. Le reste, il s'en occupe. Ça va? Mais c'est bon de savoir qu'il est vivant. Et lorsqu'on lit ce texte-là, on dit, ben oui, OK, c'est lui qui bâtira le temple, il sera revêtu de majesté royale, il siégera sur son trône pour gouverner, et il sera aussi prêtre de son trône. Il y a quelque chose qu'on a besoin de saisir, c'est que, OK, Jésus était à la fois prophète et l'accomplissement lui-même, l'accomplissement par excellence de toutes les prophéties, mais il était prêtre et roi, couronné. Nous avons un Dieu qui est couronné. Il faut savoir, évidemment, vous le savez, je sais que vous le savez, mais dans l'Ancien Testament, tu ne pouvais pas être les deux à la fois. C'est soit tu étais prêtre, soit tu étais roi. Ils avaient des responsabilités, des fonctions, des privilèges différents et complémentaires. Un prêtre ne pouvait pas prétendre aux fonctions ou aux décisions d'un royal, pas du tout. Et le roi, à l'inverse, ne pouvait pas prétendre à la prêtrise ou autrement dit se présenter devant Dieu comme ça, même tout court. Tu ne pouvais pas. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui s'y sont risqués, ils sont même morts. Des jugements sévères. Et ce n'est pas rien être roi. Être roi, pas seulement à cette époque-là, mais être roi à cette époque en particulier,
tu avais le droit de vie ou de mort. T'es le roi. I'm the king. Il est le roi. Le roi a le droit de vie et de mort. Et pourtant, tout roi qui était les rois d'Israël n'avait pas le droit de rentrer dans le temple saint pour accomplir les rituels et présenter les péchés du peuple à Dieu. Ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas ce privilège. Ils n'avaient pas cet accès. Et c'est pour ça que là, il précise dans Zacharie, il y a quelqu'un qui va venir, son nom sera Germe, et c'est lui qui va bâtir le temple, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une dénomination, c'est lui, son nom est Germe. Et il va siéger sur son trône pour gouverner, et il précise, ce n'est pas pour rien qu'il précise, il sera aussi prêtre sur ce trône. Waouh! Ce n'est pas rien. Le mot couronne, ici, pas le mot, mais quand on dit la couronne, en fait, on pense qu'il y avait plusieurs diadèmes. C'est une couronne avec plusieurs diadèmes qui est différent dans le chapitre 3 de Zacharie. Vous allez voir le prêtre qui va avoir un turban pour de prêtre qui est justement plus l'emblème de la prêtrise. Ici, on parle de la couronne royale qui représente, ici, dans ce cas-là, cette couronne posée sur la tête de Josué représente l'union de la royauté et de la prêtrise. Vous retrouvez dans psaume 110, vous allez retrouver cette dimension de royauté prêtrise à propos de Jésus. Hébreux chapitre 7, vous allez retrouver ça aussi en détail. Là, ce qui est important de retenir, c'est que les deux fonctions, roi et prêtre, vont être unies en une seule et même personne, Jésus. Une combinaison qui n'était pas possible à l'époque d'Israël. Qui n'était même pas pensable. Il y avait une secte, la secte de Qumran, d'où nous vient plusieurs manuscrits de la Mer Morte, ou manuscrits bibliques. Et cette secte attendait deux rois, deux messies. Ils attendaient un messie roi et ils attendaient un messie prêtre. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour laquelle Jésus a été crucifié, parce que les Juifs de l'époque s'attendaient à ce que Jésus vienne comme un triomphant politique, un meneur politique, et ils s'attendent à quelqu'un de... Oh! En tout cas, pas quelqu'un qui va se faire maltraiter puis qui se laisse faire sans rien dire. Ce n'est pas la conception qu'ils avaient du Messie. Ils voyaient un Messie roi. Et ça ne se peut pas que ce soit lui, c'est juste le fils du charpentier. Voyons donc, ils attendaient un Messie roi. Mais en fait, Jésus était venu accumuler les deux fonctions en lui-même. Il est venu faire une fusion politique et culturelle. Mais pas dans le sens que nous, on l'entend aujourd'hui. Comme on l'a vécu à travers l'histoire de l'humanité, où il y a cet abus de la religion sur l'État. Ce profit, cet abus religieux de ce mélange politico-religieux qui est là pour abuser. Non, c'était pas du tout ça qu'il y avait dans la tête de Jésus. En fait, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire, je viens mettre une abolition à ce qui est sacré et profane. Et ça devrait nous parler. Parce que parfois, comme évangélique, une des faiblesses que l'on peut avoir, on dit, la religion, elle, parfois, la foi est tellement personnelle qu'elle est, elle est personnelle, donc, mais elle est personnelle pour ce que je considère être personnel. Et en fait, d'une certaine façon, à travers cette cumulation de royauté, de prêtrise en Jésus, Jésus est en train de nous appeler à vivre pour lui, à être comme on est devant lui dans sa présence, l'être dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. Jésus fait partie de tout. C'est pas Jésus le dimanche et puis le reste, ben, si ça me tente, si je suis de bonne humeur. C'est Jésus toujours. C'est Jésus dans mon langage, c'est Jésus dans mes choix de ce que je regarde, c'est Jésus dans mes choix de ce que j'écoute, c'est Jésus dans mes choix de fréquentation, c'est Jésus dans mes décisions. C'est pas Jésus seulement le dimanche quand je lève les mains, quand il y a un beau chant, quand il y a un événement, quand c'est pas, quand c'est Noël ou autre. C'est Jésus tout le temps. Jésus un jour, Jésus tout le temps. Il n'y a pas de mélange entre, il y a un moment où c'est plus sacré, puis il y a un autre, ça c'est vraiment, il n'y a pas de séparation. Jésus fait partie de ta vie ou il ne fait pas partie de ta vie. Et c'est ce qu'il vient faire. Il vient cumuler les deux. Il est couronné, prêtre et roi. Et c'est terrible, parce que Matthieu 27, on l'a lu vendredi soir, deux chapitres qui m'ont vraiment saisi à un moment d'une grande simplicité vendredi soir, mais j'en ai vu des Pâques comme vous. On en a vu, là, pour ceux qui sont chrétiens depuis des années, de toutes les sortes, de tous les formats, de tous les styles. Puis je vous le dis, là, vendredi passé, je ne me rappelle pas avoir vécu une Pâque aussi saisissante. Et c'était simple, il n'y avait pas de fla-fla d'éclairage et de son. Et j'aime ces moments-là aussi, ça. Mais dans la simplicité, sa puissance, c'est wow. Et c'était simple, en fait, chacun lisait le texte, si c'était disciple, la foule, un faux témoin, Judas, chacun lisait On a simplement lu, tout simplement. Et quelqu'un faisait la narration, et Jésus dit, Jésus parla. Et puis en plein milieu, on partage le pain. Et là, je réalise, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Tac, 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 tac. Et j'ai été saisi, entre autres, parce que là, je pouvais mettre des visages. Et ce jour-là, ce vendredi soir, c'est Jean-Paul qui faisait il ne mimait même pas, il n'y avait pas d'acte. Il n'y avait rien de surfait. Il faisait juste lire ce que Jésus disait. Et j'étais là, à ma chaise, et c'est comme s'il y avait le moment réel, et Seigneur me permettait de voir au-delà. Et là, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on parfois on a tant de difficultés à nous attacher à Jésus ou à croire en lui, parce qu'on n'arrive pas à mettre un visage. Et là, je l'écoutais lire, puis je disais, en fait, disons que ce n'est pas Jean-Paul, c'est Jésus. Puis je ne fais pas de blague, c'est Jésus. Puis là, il est en train de me parler, on est en train de partager le repas. Puis dans quelques instants, là, et là, je n'avais pas un visage imaginaire de Jésus avec la barbe ou ceci ou comme ça. Là, j'avais un homme que je connais, que je côtoie, que je vois, que j'entends. Puis là, c'est comme si maintenant, quelques heures après, on va le prendre, puis on va le frapper, on va lui arracher la barbe, on va cracher dessus, et ultimement, on va le prendre, on va le clouer, et les clous qui vont s'enfoncer dans ses poignets. Ah, puis ça, c'est mon Jean-Paul, là. Enlève le nom de Jésus, ça pourrait être Jésus. Mais ça pouvait là. Je le connais, ce gars-là. Ça, c'est le gars qui me donne des coups de main, c'est le gars qui me donne des conseils, c'est le gars qui. Et là, je parle de Jésus, je ne parle pas de Jean-Paul. C'est le gars qui me donne des coups de main, c'est le gars qui me donne des conseils, c'est le gars qui m'enseigne, c'est le gars qui me relève, c'est le gars qui me lave les pieds. Puis c'est lui qu'on cloue sur une croix. Cette scène est venue tellement réelle pour moi. Et c'est ce qui prend place ici. Matthieu 27, on va relire ces quelques versets. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Couronne, et là, il pose, mais on sait qu'ils ont enfoncé la couronne et les épines se sont profondément enfoncées dans le crâne jusqu'à faire couler le sang sur les yeux, à donner avec le roseau comme un sceptre que les rois avaient pour juger. Et là, on commence à taper sur pour l'enfoncer, en se mettant à genoux devant lui, dérision totale « Salut, roi des Juifs !» C'est comme ça que c'était. Mais cette scène, elle est terrible. Elle est terrible pour deux raisons, peut-être pour plus, mais genre juste deux qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que ce qu'il ne savait pas, Zacharie l'avait prophétisé. Un homme allait porter le nom de germe, et sous ses pas, toute chose allait germer. Et cet homme-là allait s'asseoir sur le trône royal et sur le trône de la prêtrise. Il ne savait pas, mais alors qu'il s'agenouillait, ils étaient vraiment en train de s'agenouiller devant celui qui est le roi de l'univers. C'est terrible. C'est pas pour rien que Jésus à la croix, d'ailleurs, ça s'adresse particulièrement dans le verbe dans lequel c'est conjugué, quand il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », il s'adresse à ceux et celles qui sont là. À ce moment-là, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est terrible. Et la deuxième chose pour laquelle cet événement, cette scène est terrible, c'est qu'en fait, c'est pas Jésus qui aurait dû être là, c'est Philippe, c'est toi. Que tu crois ou que tu crois pas, que tu viennes régulièrement à l'église ou non, que tu n'en aies rien à faire ou non de ce que Jésus a fait pour toi, c'est toi qui aurais dû être là. C'est moi qui aurais dû être là. C'est à moi qu'on aurait dû arracher la barbe, c'est à moi qu'on aurait dû planter une épine. Et là, non seulement c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est qu'en plus, ce quelqu'un d'autre, c'est un roi. Et par sur le marché, un roi qui est irréprochable, un bon roi, parfait, juste, sans reproche, sans aucune erreur de jugement, miséricordieux. Et c'est lui qui est maltraité. Il dit rien. Waouh. Il dit rien. On lui plante une couronne d'épines. Épines, signe de malédiction. C'est pas à l'écran, mais je lis pour vous, c'est très court. Proverbe 22, verset 5, si vous prenez des notes. Il te produira des épines et des chardons. Ça, c'est déjà dans la Genèse. Le sol sera maudit, puis voici ce que ton sol va produire à cause du fait que tu t'es détourné de moi. Ça s'adresse à Adam et Ève. Il sera maudit, il produira des épines et des chardons. Signe de malédiction. Proverbes chapitre 22, verset 5. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Celui qui tient sa vie s'en tiendra éloigné. Jésus, là, il n'est pas seulement en présence des épines, on l'a enfoncé, on l'a couronné d'épines. Tiens, tiens la malédiction de l'humanité, on va te la planter dans le crâne. Les épines sont le fruit du péché. Il est en train de porter sur lui le fruit de nos péchés, le fruit de nos mauvaises pensées. Il est en train de le porter. Cette couronne d'épines est une image du fruit de notre péché, ce qui a transpercé le cœur de notre Sauveur. Quelle horreur! Vous lirez plus longuement Hébreux chapitre 2 au complet. Hébreux est magnifique. En fait, la Bible, c'est super. C'est juste une beauté. On va juste lire Hébreux chapitre 2, verset 9. Après avoir vécu tout ça, voici ce qu'on nous dit. « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. » Couronné de gloire. Couronné d'épines, mais couronné de gloire aussi. Notre Dieu a toujours été couronné. Jésus a toujours été couronné. Dans le malheur comme dans le bonheur. Au verset 5 du chapitre 2, ce n'est pas l'écran, mais je le mentionne parce que c'est intéressant. Je vais quand même le lire. Il dit « En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Vous lirez en détail, mais pourquoi je mentionne ceci? Je sais qu'il y a plusieurs volets du christianisme où certaines personnes vont s'adresser à des anges. Le culte aux anges. Et ici, c'est très clair que l'autorité qui a été donnée à Dieu, ce n'est pas une autorité qui a été donnée aux anges. C'est une autorité qui a été donnée à Jésus. Parce qu'il n'y a pas un ange qui a subi ce que Jésus a vécu. Donc, il n'y a pas un ange qui mérite d'avoir l'autorité que Jésus a. Yes! Jésus seul. Et celui qui en a maltraité, bafoué, a été abaissé pour quelques instants en dessous des anges. Mais nous le voyons, et c'est ce que j'aimerais ce matin, c'est que nous puissions réaliser et voir le Jésus couronné de gloire. Vendredi Saint, c'est le Jésus couronné d'épines, mais le Jésus que nous avons est aussi ce Jésus couronné de gloire. Jésus couronné de gloire. Il arrive, il meurt, il va dans le tombeau, on sait plusieurs passages dans la Bible, dit, et la mort elle-même n'a pas pu le retenir. Puis ça, je dis waouh. La mort elle-même n'a pas pu retenir notre Sauveur. Pourquoi? Ah, parce qu'il a payé nos fautes, c'est sûr. Son sacrifice a été approuvé, sa résurrection vient démontrer que le sacrifice qu'il a offert a été agréé par le Dieu parfait et saint. Mais je crois aussi que ce qui s'est passé, j'aime des fois me faire des scénarios. Ce n'est pas dans la Bible, mais j'imagine. Des fois, dans ma tête, c'est un vrai film de science-fiction. Mais j'aime imaginer que Jésus arrive, après toutes les souffrances qu'il a eues, meurt, les gens pleurent, ceux qui l'ont aimé, il n'est plus là. Mais il est dans le séjour des morts. Et j'aime imaginer que le séjour des morts, avec toute son odeur fétide et nauséabond qu'elle a, et tous les plans de machination, et voilà que Jésus arrive. Oh, oh, un intrus. Et d'une certaine façon, je peux imaginer, d'ailleurs la Bible le mentionne à d'autres endroits, où le diable lui-même se réjouit. Yes, sir, la pierre est roulée, Jésus est mort, c'est bon, on l'a eu, c'est fini. Le Messie est mort, c'est terminé, dossier classé, on passe à autre chose. Et non, non, Jésus arrive dans le séjour des morts. Ça, c'est moi qui imagine. Et j'imagine, et je crois que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la mort n'a pas pu le retenir. Parce que lorsque Jésus arrive en enfer et qu'il n'a rien à se reprocher, il n'arrive pas comme un esclave, il n'arrive pas comme un serviteur, il n'arrive pas comme le petit Jésus dans la crèche, il arrive comme un roi. Un roi sur lequel la mort n'a aucun pouvoir. Et je peux imaginer toutes les hordes de l'enfer voir Jésus arriver et peut-être au premier moment se réjouir. Oh yes, on l'a eu! Mais alors que Jésus commence à faire ses premiers pas sur lesquels tout est en train de germer, eh bien, ils s'aperçoivent qu'en lui, il y a la vie, il y a la justice, il y a la sainteté, il n'y a aucune puissance maléfique qui peut résister devant ce Dieu-là. Et il s'incline. Il dit, OK, on le laisse passer. Vas-y. Vas-y, passe, mon ami. Mon ami, entre guillemets. C'est une expression. Parce qu'il est le roi. Il n'est pas devenu roi lorsqu'il est sorti du tombeau. Il était déjà roi. Yes! Allez, retenez-moi, attachez-moi. Il était déjà roi. Il était roi avant la création, il était roi pendant la création, il était roi à la crucifixion, il était roi à la résurrection, avant, pendant, après, il a toujours été roi, c'est le Dieu éternel. That's it. C'est réglé. Quand ils l'ont vu, ça, 3 jours, ça, je pense qu'il a réglé ses comptes, tac, tac, boum, boum, un uppercut ici, un uppercut là, boum, oh, c'est réglé. Pouf, la dette de l'humanité est payée. C'est terminé. Ben, c'était déjà payé à la croix, pour être plus théologiquement parlant, juste. Mais les barreaux de l'enfer se sont ouverts. Et tous ceux qui finissent peuvent rentrer si leur main est attachée à celle de Jésus. Tu fais juste, hop, tu traverses et finis, t'es de l'autre bord. Parce que t'as mis ta main, ta foi dans celle de Jésus. Wow. Hébreux chapitre 5. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. À cause de quoi ? À cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Ça, c'est juste ces petites phrases-là, il y a du matériel là-dedans. Tout un programme pour nous qui voulons suivre Jésus. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Pas pour tous ceux qui se réclament d'une étiquette dénominationnelle. Pas pour tous ceux qui vont à l'église, qui donnent leur argent, qui font des bonnes œuvres. Tous ceux qui lui obéissent. Et là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais il me semblait que c'est par la foi qu'on est sauvé. » Oui, oui, c'est par la foi. Mais la foi est visible par mon obéissance. Grâce et vérité. C'est par la foi. Oui, c'est par la foi. Je crois en toi. Mais je crois tellement en toi que je veux marcher comme toi, je pensais comme toi, parce que je crois en toi, parce que tu n'es pas une légende. Puis des fois, je vais m'écarter, mais tu es mon avocat auprès du Père, tu vas être mon prêtre. Tu es celui qui a payé pour moi. Verset 10. L'auteur d'un salut éternel, Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la lignée de Melchisédek. C'est exactement ce que Zacharie nous parle. Vous regarderez en détail, Hébreux chapitre 7. Mais Melchisédek, un homme sans généalogie, sans âge, on ne sait pas d'où ce qu'il sort, il apparaît, Melchisédek, le roi de Salem. Puis Jésus dit, c'est dans cette même lignée-là. Melchisédek n'était pas d'une... Parce que pour être sacrificateur ou prêtre, ça se faisait de père en fils. Il fallait naître dans la tribu de Lévi. La tribu de Lévi était les prêtres sacrificateurs, mais Melchisédek, on ne sait pas de quelle tribu il vient. Et puis Jésus, il vient, généalogiquement parlant, il vient de la tribu de Juda. Il n'est pas de la tribu de Lévi, donc logiquement, il ne pourrait pas être prêtre. Il défie toutes les lois religieuses placées par Dieu lui-même. Il dit, maintenant, on va faire les choses différemment. Là, on va mettre deux en un, roi et prêtre. Mais c'est dans cette même lignée-là que Jésus se trouve, à la différence que lui... Il est éternel. En fait, on va terminer bientôt avec... je vais terminer, il y en aurait tellement de versets à lire, mais j'en ai sélectionné un autre. Je crois qu'on a besoin de vivre de plus en plus notre relation avec une vue de qui est Jésus maintenant. Et non uniquement, sans balayer le reste, mais non uniquement avec une vue à unidimensionnelle, c'est-à-dire un Christ crucifié, souffrant à la croix. Ça, c'est le Christ couronné prêtre, celui qui se présente en sacrifice vivant à la place d'un agneau. Il se présente à la croix, puis nous sauve. Mais la médaille a deux faces. Avec Jésus, tu peux toujours gagner quand tu as la médaille, la façon de parler. Avec Jésus, tu n'as pas pile ou face. Tu fais que ce soit pile ou que ce soit face, tu gagnes. Parce que ce soit la face du Messie prêtre ou du Messie roi, tu es gagnant. Les deux avec Jésus. Et alors qu'il le battait à mort, il ne réalisait pas. Et quelques heures plus tard, ça allait prendre place. Même bon, 40 jours plus tard, pour être plus concret, parce que Jésus va rester 40 jours avec ses disciples après la résurrection, leur parlant des choses du royaume. Parenthèse. Jésus 40 jours va vivre avec ses disciples pour leur parler plus que jamais, des choses du royaume. Et des fois, nous avons besoin, nous aussi, chers amis, de nous nourrir des choses du royaume. Du royaume de Dieu, je parle. De croire, évidemment, ce qui est dit. C'est une réalité. Chercher les choses d'en haut, nous dira Colossiens. Et des fois, on oublie, on est tellement sur la terre, tellement sur le Christ crucifié, qu'on oublie que, parce que humainement, on ne peut pas le voir, mais il y a une réalité qui est là. Et regardez quelques jours plus tard ce qui va se passer. Apocalypse, chapitre 19, si je ne me trompe pas. Oui, à partir du verset 11. Là-dessus, hein, c'est Jean qui reçoit cette vision. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici. Et en lisant ça, rappelez-vous là, de la scène où il se fait frapper, on lui met une couronne d'épines, puis comment est-ce qu'on se moque de lui. Puis mettez les deux scènes en contraste, en comparaison. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il dirigera avec un sceptre de fer. On est loin du roseau dans la main. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Dans son activité de roi juge. Et sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre roi des rois et seigneur des seigneurs. Et c'est cet homme-là sur lequel on a enfoncé une épine, qu'on a craché dessus, qu'on a cloué à la croix, qu'on a bafoué, qu'on s'est moqué. C'est lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'était lui. Ils l'avaient devant eux, devant leurs yeux. Et aujourd'hui, Jésus est vivant. Et toutes les preuves sont là. Ce matin, je n'ai pas le temps, ce sera un autre sujet, une autre occasion, pour démontrer que la résurrection n'est pas une légende. Ce n'est pas une légende. C'est vrai. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie personnelle, mais je t'invite, si tu n'as pas saisi pleinement que Jésus est plus qu'une religion, qu'une culture. Je t'encourage, considère-le sérieusement. Je crois que tu en as besoin comme nous en avons tous besoin. Moi, j'ai besoin de ce Jésus prêtre qui se présente pour moi devant mon Dieu. Et j'ai besoin de ce Jésus roi qui me défend devant mes ennemis. Couronné, Jésus a été couronné de souffrance à la croix. Couronné de puissance à la résurrection. Jésus était couronné tel un agneau, il est monté à la croix comme un agneau, il est sorti du tombeau comme un lion. J'ai envie de dire que Jésus à la croix, c'est mon sauveur. C'est Jésus mon sauveur. Mais Jésus à la résurrection, c'est Jésus mon Seigneur. Même s'il a toujours été Seigneur. Bon, on voit ces deux titres, prêtre et roi, qui sont constamment dans sa vie. Sauveur à la croix, Seigneur à la sortie du tombeau. Seigneur dans la mort, plutôt. Crucifixion, couronné dans sa crucifixion, mais couronné dans sa résurrection, couronné de gloire. Il est couronné. C'est fort la couronne. Celui qui a la couronne, ceux qui jouent aux échecs et maths, là, c'est la couronne que tu cibles. Échecs et maths, c'est la couronne. Même si tous les autres sont super importants pour parvenir à la couronne, mais c'est la couronne. C'est la couronne que tu vises. Couronne. Il est ce Dieu-là. Ouais. J'aimerais terminer. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Je mentionnais peut-être une diapo que c'est mentionné. Peut-être la prochaine d'ailleurs. Celle d'après peut-être, je vais voir. Voilà. Voilà. Concrètement, ce que m'apporte dans ma vie, le fait de savoir que Jésus a été couronné prêtre et roi, c'est que face au Dieu redoutable et saint, Jésus est mon prêtre. Nous avons un Dieu miséricordieux, mais c'est un Dieu qui est sérieux. Je ne peux pas me présenter devant Dieu comme ça. Il fallait que quelqu'un paye. Et ça, c'est Jésus mon prêtre. Jésus mon souverain sacrificateur. Et lorsque je m'approche, ou lorsque tu t'approches de Dieu, c'est pour ça que tu peux t'approcher. Si tu mets ta main et ta confiance dans celle de Jésus. C'est parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui vois. C'est Jésus. Devant moi, là, il y a Jésus. Puis Dieu, il est là. Puis il me voit à travers le filtre du sacrifice de son Fils. À travers sa prêtrise. Mais face à mes accusateurs, vous lirez Zacharie chapitre 3. Face à mes accusateurs, ce n'est pas d'un prêtre que j'ai besoin, c'est d'un roi. Face à l'accusateur de mon âme, là, ouais, Philippe, t'es un vaurien, t'as pas réussi. Là, tu pensais, regarde, t'as pris un engagement, t'as pas réussi. Puis regarde comment est-ce que t'as. Première chose, je me tourne vers mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus, sois mon prêtre, sois, je te demande pardon. Sois. Et en même temps, tous mes accusateurs, pendant que je suis en train de me présenter devant Dieu par Jésus le prêtre, eh bien, simultanément, j'ai Jésus le roi qui se présente derrière face à mes ennemis, dit, touche-le pas, parce que je suis le roi. C'est moi qui décide de vie et de mort. Vous imaginez un instant si Jésus n'avait pas ses attributs? Ouais, ah, Jésus le roi, super, mais il ne peut pas intercéder auprès de toi parce qu'il n'est pas prêtre. Seulement les prêtres avaient le droit de faire ça. À l'inverse aussi. Ah, Jésus m'a sauvé, il est mort à la croix, il est mon prêtre, il est mon sacrificateur, il est... Mais quand vient les temps durs, ouais, il a plaidé ta cause auprès de Dieu, mais il n'est pas roi. Et Jésus est les deux. C'est la puissance de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Avant de lire le texte de la Sainte Cène, c'est le dernier qu'on voit, mais c'est la dernière diapo. Jacques chapitre 1, verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. » Je pense à apparaître sur une des diapos. « Son sacrifice me justifie devant Dieu, mais sa souveraineté me responsabilise devant les hommes. » Son sacrifice, c'est par la foi. Je suis justifié devant Dieu, mais le fait de savoir que Jésus est aussi roi me responsabilise devant les hommes et Jésus délègue son Église. Je te donne mon autorité, ma couronne, là, je la partage. Je fais de vous des co-héritiers. Et le fait de savoir que Jésus est mon roi, ça me responsabilise. Je ne parle pas de légalisme, ça me responsabilise devant les hommes. Ça veut dire concrètement que je peux... C'est pas que je peux plus, c'est que j'ai plus envie de marcher comme si Jésus était mort. Je veux marcher en sachant que Jésus est roi. Et être une prolongation de son caractère, de son tempérament, de qui il est. Ça me responsabilise. Grâce et vérité. Et sachant qu'il a vaincu, alors je veux résister à la tentation parce que c'est Paul qui va dire « On aspire une couronne, mais pas une couronne... » qui se flétriche. J'aspire à la couronne de la vie éternelle. J'aspire à la couronne de la victoire. J'aspire à cette couronne-là. Et si Jésus a résisté à la tentation, eh bien, tu peux le faire. Et j'aimerais, je prie que cette incrédulité, trop de gens sont captifs de certaines mauvaises habitudes, pensant que, ah ben, je suis juste un homme, je suis juste une femme, je suis un être humain, je peux pas résister, Non. Je comprends qu'il y a des combats, je comprends qu'il y a des difficultés, je comprends que ça se fait pas du jour au lendemain, mais j'aimerais te dire qu'en Jésus, il y a la victoire quand même. Car la foi qui triomphera, car ce qui triomphera du monde, c'est la foi. Qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est la foi. Et cette foi-là, c'est quoi? C'est cette foi que Jésus habite en moi et que Jésus peut me rendre fort. Et lorsque je tombe, il me relève. Fais pas de moi quelqu'un de parfait, mais je marche dans sa victoire. On était voir avec quelques gars de l'église Montagne en Seine. Il y a une Seine dans l'Everest. Il y a deux alpinistes chevronnés qui traversent un endroit où il y a 25 cm à pour passer à quelque chose près. Et c'est à pic arrière. C'est 25 cm pour passer les skis. Et le but, c'est de faire cette descente sans rappel et sans rien du tout. Et sans rappel en particulier. Et le premier, il passe. Et là, même le public, là, dans la salle de cinéma, tu retires ton souffle parce que... premier pas, c'est le chemin est étroit, comme Jésus nous appelle, le chemin pour me suivre est étroit. Et il y a le deuxième, il s'arrête, il dit, moi, en fait, je fais ça, je ne sais pas pour avoir le thrill de la peur, je fais ça pour le plaisir. Puis il dit à son ami, il dit, lance-moi une corde, quand même. Son ami, il n'a pas eu de corde, mais lui, il aurait pu dire, ah, moi, je vais faire comme, il l'a fait, je le fais. Puis il dit, je pense que j'ai une famille, etc. Il dit, lance-moi la corde. Il lance la corde, mais il traverse quand même. Il est attaché à son équipier. Puis ça, pour moi, c'est la vie chrétienne. Le premier à traverser le passage des 25 cm sans corde. Le deuxième traverse aussi, mais demande la corde. Croire, c'est s'attacher. Et s'attacher à, c'est traverser comme. Est-ce qu'on saisit? Croire, c'est s'attacher. Pas je dois, je m'attache à toi. Comme dans la bouée, tu joues dans l'eau, là, puis tu ne veux pas tomber de la bouée. Tu tiens toutes tes forces. Je vais m'attacher. Croire, c'est m'attacher. Et m'attacher, c'est traverser comme. Et je peux traverser comme parce qu'il a traversé les yeux, parce qu'il l'a fait. J'invite 4 personnes, s'il vous plaît, volontaires à venir. On va distribuer les éléments, la Sainte-Seine, on va prendre le repas. 4 volontaires, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, je vais lire le texte. Au cours du repas, qu'on puisse lire ce texte avec l'image de « tout est accompli » et non comme « il va passer par la croix ». C'est fini, là, on sait qu'il est passé. Là, on le lit par principe, si on peut dire. Mais surtout à cause de la dernière phrase. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il donna à ses disciples en disant « prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance ». Il va être versé pour beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Péchés pardonnés, yes. Je vous le déclare, désormais, c'est ça qui nous intéresse pour nous aujourd'hui, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. En tout cas, il est patient. Jusqu'à... J'aimerais qu'on prenne ce repas, non pas dans une attitude de macabre, mortuaire. Non, il est vivant. Puis là, on dit, prenez-le. Tout est accompli, mais prenez-le quand même. Jusqu'au jour... Moi, de mon côté, j'en prends plus. J'ai donné. Je comprends, il a donné quand même. Dis-moi, j'ai donné, là, ça suffit, c'est assez. Mais vous continuez pour que vous rappeliez de ce que j'ai fait. Oubliez surtout pas, je suis prêtre, roi, prophète, je suis tout ce dont vous avez besoin, je suis tout. Mais rappelez-vous-en. Puis moi, là, pendant ce temps-là, là, j'attends. Prenez-le, puis jusqu'au jour où on va en boire ensemble. Oh, yes. Seigneur, tu peux revenir aujourd'hui, c'est pas mal. Non, ce serait triste pour ceux et celles qui n'ont pas encore mis leur foi dans la vie de Jésus, mais vous comprenez. Quel moment de joie. Allez, on va aller aux extrêmes. Demandez si c'est possible de prier.
Seigneur, je veux te remercier. C'est la joie. On bondit dans nos cœurs, Seigneur. On bondit peut-être pas sur place, là, comme film, mais on bondit dans nos cœurs, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es passé sur cette croix, parce que c'était nécessaire pour moi, Seigneur. Mais t'es sorti de ce tombeau, Seigneur. Et merci pour cette promesse extraordinaire, Seigneur. Que cette scène qu'on partage maintenant, on la partage avec toi demain, Seigneur. Amen.
Amen.
Ouais, Seigneur, c'est vraiment un jour de joie. Tout à l'heure, il parlait de Noël. C'est un jour de joie, mais celui-là, effectivement, c'est la voûte de notre foi, de notre espérance. Et Seigneur, avec ces deux symboles, le pain et le vin, j'aime imaginer aussi qu'après, il y avait un repas, il y avait, je sais pas, de la viande, il y avait des chips, il y avait du coca ou n'importe tout ce qu'on aime manger aussi. Et on veut se rappeler de ce pain et de ce vin qui symbolise ce corps brisé, battu, cassé. On peut imaginer ici ce que c'est d'avoir mal, d'avoir des souffrances, d'avoir des maladies, mais c'est vrai que cette image des épines qui rentrent dans le front et dans le crâne, ça fait froid dans le dos et on veut se rappeler de ça aussi quand même avec, avec joie mais avec solennité. Je te remercie aussi pour ce sang qui a coulé, pour mes péchés parce que je n'étais pas digne. Je n'étais pas digne d'être appelé ton enfant. Mais c'est par ce sang que je peux t'appeler papa. Et je veux te dire, nous voulons te dire, nous t'aimons, je t'aime Seigneur.
Ouais.
Amen.
Amen. Amen. Yes. 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 Prenons ce repas dans la joie. Je vais m'asseoir aussi avec vous et après, Pierrick reprendra le micro pour la suite. Soyons dans la joie, soyons dans la joie. Et si vous avez des questions, peut-être vous êtes là pour la première fois, si vous avez des questions par rapport à ce Jésus, par rapport à ce qu'il a fait, eh bien, n'hésitez pas à venir nous voir. Puis on va tâcher du mieux du possible de répondre aux questions que vous auriez. Mais si tu crois que Jésus est ton sauveur, qu'il est mort à la croix pour tes péchés sur cette croix, alors n'hésite pas, prends ce pain qui représente son corps, ce jus de raisin qui représente son sang qui a coulé pour toi et moi. Si pour toi Jésus n'a aucune connotation que juste une idée religieuse, alors laisse passer simplement le plateau et approfondis, recherche-le jusqu'au jour où tu dis « Ok, je veux que tu sois mon Seigneur ».
Innocente et sincère, pour vous.
pour ce temps à chacun partager, ce partage sur ce prêtre et ce roi. Et j'ai bien aimé aussi ce rappel de germe. J'oubliais que Jésus était germe. Et c'est pas là, ça m'a parlé aussi. Merci beaucoup pour ça. Les annonces de la semaine, ça va être super court, les annonces les plus courtes de l'année presque. Mardi, la réunion de prière, 20h30, voilà. Samedi, le groupe de jeunes. Et dimanche, qui vient, le culte qui sera animé aussi par le groupe de jeunes. Donc, profitons de cette semaine peu chargée. Venez ou venez pas, mais lisez la parole. Pensez à ce Jésus et ses parts qu'il a fait pour nous. Une petite idée comme ça aussi, il y a des gens qui ne sont pas là parmi nous, qui peut-être aimeraient bien être là, je pense aux personnes âgées parmi nous. Peut-être appelez-les pour leur souhaiter une joyeuse Pâques et leur dire, ils aimeraient peut-être bien entendre Jésus est ressuscité. Je pense peut-être à Pierrot-Madeleine, je pense peut-être à René Nelly, peut-être à Gilberte, Fernande. Ils sont tous dans le petit bol annuaire téléphonique qu'on a donné. Donc peut-être appelez-les et puis dites-leur, et vous savez quoi, Jésus est ressuscité. Moi, j'étais content de l'entendre ce matin et je suis sûr qu'ils seront contents de l'entendre. Et vu que je suis content de l'entendre, j'aimerais qu'on termine le culte sur ça. Les enfants, vous êtes connectés encore? C'est bon? Vous êtes là? Ouais, c'est bon, ça va. Comment vous avez fait, les gars, là? Ouais, je te regarde, toi, là. Les gars, comment vous avez fait quand Benjamin Pavard a marqué un but à la Coupe du Monde, là? Comment t'as fait, Noam? Ah, t'as rien fait. Là, moi, j'étais comme ça, j'ai cru qu'on était morts, justement. J'étais comme ça. Et d'un coup, j'ai... Ah, j'étais content, mais un truc de fou. J'ai sauté sur des gens. Et là, on va faire un truc, là. Je ne vous demande pas de faire « Waouh !» Mais vous avez vu ce qu'on a marqué, là? Jésus est ressuscité, et on a marqué « Yeah !» après. Alors, on va faire un truc, là. On va comparer les enfants et les adultes. Les adultes, vous me dites, hein, Jésus est vraiment ressuscité, ils vont nous faire un « Yeah !» On va comparer leur « Yeah !» et notre « Yeah !» Puis peut-être on fera un « Yeah !» tous ensemble à la fin. Alors, allez-y, les adultes, là, Jésus est vraiment ressuscité, vous me le dites ?« Oh, yeah !» Ah, c'était pas ça que je voulais que vous fassiez, mais ça va super bien. Les enfants, Jésus est vraiment ressuscité? Yeah! Allez, on regarde nos voisins et on dit Jésus est vraiment ressuscité. Yeah! Bon dimanche à tous.